Bonjour à toutes et à tous, Christophe Jubien pour vous accueillir dans le Libre Propos, l'émission de Radio Rancière qui vous permet d'écouter chaque semaine la parole de notre évêque, Monseigneur Philippe Christoris, sur des sujets divers et variés de société, des sujets d'église, spirituels, nationaux, internationaux, et aujourd'hui on va commencer par vraiment une séquence polémique, si j'ose dire, mais qui va nous permettre peut-être d'aborder un sujet qu'on n'avait pas encore abordé, qui est le féminisme. Et c'est l'affaire Bayou-Rousseau, Julien Bayou, Sandrine Rousseau, qui chez Les Verts s'écharpe un peu, et Sandrine Rousseau finalement a poussé hors du parti Julien Bayou, finalement sur la foi de rumeurs, c'est tout.
Bonjour Christophe.
Bonjour.
J'ai entendu vaguement dans les médias cette affaire, mais mon impression parfois, c'est que il y a beaucoup de souffrance dans le cœur des personnes, et soit ça conduit à un repli sur soi, une tristesse qui fait que la personne se replie. Soit on essaie de trouver un coupable et on essaie de... ce qui suscite des invectives. Et curieusement, c'est parmi les Verts, donc parmi des gens qui devraient être attachés à des valeurs de nature, de beauté, de lumière, et qui cherchent un peu en vain qui ils sont et ce qu'il faut faire. Ce féminisme un peu exacerbé, d'abord j'ai l'impression qu'il ne concerne presque que ces personnes-là. Enfin, les gens que je rencontre, moi, dans mes tournées pastorales, dans les rencontres que je fais, encore hier par exemple, je suis allé à l'accueil de Saint-Vincent-de-Paul des personnes à la rue, il y avait des femmes qui étaient là. Je crois que ce n'est pas leur discours, ce n'est pas leur question. Ces gens-là vivent des relations naturelles, humaines, de qualité, avec leur pauvreté, leurs limites. Mais ce monde politico-médiatique veut imposer sans arrêt un peu son diktat, notamment le diktat féministe,
oui.
Qui d'ailleurs, on l'a vu avec ce drame absolu de l'Iran et ces manifestations de ces femmes, justement, qui aspirent à une vraie liberté, eh bien, on voit qu'il y a une incompréhension complètement complète entre ce monde-là et ces prétendus féministes qui veulent libérer la femme.
Oui, Sandrine Rousseau a été sifflée, elle s'est rendue à la manifestation.
Elle a été sifflée, elle a comme été on dit, sifflée. Grave, quoi. Oui,
oui.
Mais absolument.
Oui.
Les gens lui disent, mais partez, quoi. Donc, je ne sais pas, on est un petit peu hors sol. L'Église... essaie de puiser dans la parole de Dieu un regard sur l'homme et la femme comme étant de même dignité et surtout pour promouvoir une communion à l'image de la communion qu'il y a en Dieu entre Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, une communion de cœur, une communion des corps, une communion des esprits, des âmes, alors que ce féminisme-là, en tout cas tel qu'il s'exprime dans les médias, est sans arrêt un féminisme d'opposition, de division. Je pense pas que ça correspond à l'attente du cœur de l'homme,
oui.
Et de la femme.
C'est un féminisme qui n'a plus rien à voir d'ailleurs avec le féminisme des années 70, ou celui qui est encore porté par exemple par Elisabeth Badinter. Hein. Mais on a aussi le sentiment d'une société de la délation, c'est-à-dire que finalement... Julien Bayou, qui lui-même dit qu'il n'a rien à se reprocher, est tout de même parti, sans qu'aucun fait ne soit établi, sans qu'il y ait eu de plainte, sans qu'il y ait eu de main courante. C'est assez surprenant, quand même.
Bah, c'est surprenant, et ça ne l'est plus quand on voit que les médias deviennent le nouveau tribunal. C'est-à-dire que les gens n'ont même pas le droit à un procès équitable. On a déjà jugé sur pièce qu'ils étaient coupables. Donc aujourd'hui, il y a... un très dur jugement des médias et du monde politique sur les autres dès qu'on appréhende qu'il y a une faute potentielle, quoi. Il a le droit à... Je ne sais pas qui il est, je ne sais pas s'il est clair, mais il a le droit, comme toute personne, à une défense, à être respecté, à avoir la présomption d'innocence. Doit-il partir après ça du monde politique qu'il incarne ? Peut-être que oui, au sens que on attend quand même que ceux qui ont une voix politique forte dans cette société française soient des gens clean, quoi, des gens propres. Et alors, mais je voilà.
On a l'impression aujourd'hui qu'on veut la mort du pêcheur. Cette expression est très juste. On veut la mort du pêcheur. On ne distingue pas entre les actes et la personne.
Et curieusement, en même temps, il n'y a plus de péché. C'est-à-dire que tout est libre. On fait ce qu'on veut, quoi. Mais oui, c'est vrai. La mort du pêcheur aujourd'hui est signifiée avant même qu'il ait pu dire un mot.
Et là, le christianisme a des choses à dire.
Je pense que oui. Respect de chacun et puis l'écoute, encore une fois.
On va revenir sur le congrès mission à présent qui s'est déroulé le week-end dernier à Paris. On en avait parlé en amont. Est-ce qu'il a tenu ses promesses ?
Le congrès mission, c'est un événement qui dure 3 jours, qui est maintenant à 8 ans d'âge, je crois, qui est un très bel événement. Pas parce que c'est une grande fête ou un grand rassemblement de gens d'abord, mais c'est vraiment un cœur qui bat au cœur de, là c'était à Paris, donc au cœur de Paris, un cœur qui bat à l'unisson de plein de chrétiens catholiques, mais aussi orthodoxes, protestants qui viennent pour partager ensemble la joie de la foi au Christ et de la bonne nouvelle qu'est l'Évangile. Donc ça, c'est d'abord ça. Et ensuite, à travers de multiples ateliers, tables rondes, stands sur les villages, célébrations. Concrètement, on crée du lien, on s'unit, il y a une communion dans la diversité des initiatives, de l'âge des gens aussi, des origines rurales, écoles, citadines, des projets. Qui est très touchant parce que on n'est pas dans la compétition, on n'est pas dans la comparaison, on n'est pas dans l'idéologie. Les gens aiment le Seigneur et je pense qu'ils veulent s'aimer entre eux. Et ça, c'est très perceptible. Et j'ai eu la chance de participer le samedi soir au dîner de la fraternité. Il y avait un grand barnum devant Saint-Sulpice. On était à table par 8. À chaque fois, nous étions peut-être 400 à ce repas, et les personnes invitaient quelqu'un qu'ils rencontraient. Ça pouvait être quelqu'un de la rue, quelqu'un en précarité, donc des tables assez mélangées. Moi, j'étais avec des jeunes, avec aussi un homme qui était en difficulté sociale, qui n'avait pas d'habitation. On a partagé un passage de l'Évangile, les invités au festin par le maître qui incarne Dieu. Et ça a été un moment très beau. Vous voyez, donc... au fond, chacun a sa place, et c'est enthousiasmant, et la foi est très vivante. Un beau message.
Ouais. D'un événement à l'autre, après le congrès mission, les JMJ, alors, c'était pas tout de suite, c'était en 2023 à Lisbonne, mais évidemment, les jeunes peuvent commencer déjà à s'inscrire bientôt. Et pour l'Eure-et-Loire, donc, ce sera pour le diocèse de Chartres, ce sera du lundi 25 juillet au mardi 7 août. C'est un événement enthousiasmant, vous l'avez vécu jeune
homme. Oui, alors JMJ, ça veut dire Journée mondiale de la jeunesse. C'est le pape Saint Jean-Paul II qui a initié ça. La première a eu lieu à Buenos Aires, d'ailleurs, lieu bien connu de notre pape François. Effectivement, c'est un moment universel aussi. J'ai pu en vivre 6 manifestations différentes dans différents pays du monde et continents. Là aussi, il y a une jeunesse qui vient décomplexée, chaleureuse, joyeuse. Je me souviens à Denver, aux États-Unis, les gens avaient craint que ces centaines de milliers de jeunes allaient fumer des joints, s'exhiber avec l'alcool, casser la baraque, comme on dit. Mais rien de tout ça. C'est toujours une jeunesse joyeuse qui chante, qui est heureuse de se rencontrer, c'est de l'inter, non pas génération, mais inter-nationalité, on peut dire, et toujours une grosse attente de l'avenue du pape qui incarne le Père, qui incarne la voix de la sagesse. C'était pareil avec Jean-Paul II, pareil Benoît XVI, pareil le pape François. François a commencé à Rio de Janeiro, c'était un événement incroyable sur la plage de Copacabana avec 2 millions de jeunes. J'espère que Lisbonne, ça sera un grand événement et nous irons effectivement d'abord à Coimbra, un diocèse du Portugal, et puis ensuite à Lisbonne avec tous ceux qui veulent. Normalement, c'est 17 ans à 35 ans, Donc on peut venir même en couple, jeune couple, on peut venir avec des amis étudiants, jeunes pros, etc. Et ça, on contacte le diocèse et bienvenue à tous. Ouais.
C'est un événement qui donne à mesurer le côté, alors je ne sais pas si c'est le mot est bien choisi, mais multiculturel de l'Église. Ce sont des assemblées très colorées. Le christianisme et le catholicisme est présent partout dans le monde. Et grâce à l'inculturation, c'est-à-dire qu'on peut célébrer sa foi de la manière...
Oui, on articule toujours, et c'est très frappant de voir ça. À la fois, il y a beaucoup de joie, donc beaucoup de chants, de louanges qui peuvent être différents suivant les cultures et les langues, c'est vrai, mais on se retrouve bien sur ces chants et cette joie-là. Les célébrations sont toujours des célébrations très dignes, très solennelles. Et puis aussi la place du silence et de l'adoration eucharistique. Et par exemple, à Madrid, le soir, il y a eu cette veillée avec une tempête en plus, où on était 1 million et quelques de personnes dans le silence absolu avec le pape Benoît XVI, et c'était magnifique.
Ouais. Il nous reste... Allez, deux petites minutes. Du 25 au 28 octobre, c'est le pèlerinage des servants de Metz. C'est en Bretagne. Et c'est l'occasion de parler des petits servants de Metz. On n'en parle pas souvent,
finalement. Des petits et des grands, parce qu'on peut commencer à 8, 10 ans et on peut encore être servant, on dit clerc, ou à 18 ans. D'ailleurs, il nous faut des aînés pour accompagner les plus jeunes. Donc, c'est toujours un beau service de l'hôtel. Qui d'ailleurs, dans les paroisses, peut être un groupe de garçons, aussi de filles, qui sont vraiment rassemblés autour du Christ, qui vivent leur service comme une sorte d'aumônerie, on peut dire, d'adolescents, avec soit un prêtre qui anime ça, soit des laïcs, un couple qui porte le projet pour faire à la fois de la formation, pour que ce groupe prie ensemble. Et moi, comme évêque, c'est vrai que quand j'arrive dans une paroisse et que je vois qu'il y a 7, 8, 10 servants, servantes qui sont là, qui apportent leur joie, simplement, qui servent avec soin, c'est très aidant pour présider la messe et la célébrer. Donc je ne peux qu'encourager des parents à proposer à leurs enfants d'être servants. Je ne peux qu'encourager aussi tous ces groupes à se former, à aimer le Seigneur et à servir. Et c'est toujours très, très béni.
Monseigneur Christori, merci beaucoup. On arrive au terme de cette émission, émission que vous pourrez réécouter bien évidemment en podcast sur www.radiograndciel.fr. Merci à Simon Martin en régie technique et à la semaine prochaine.
Parole de vie,
ta parole de vie,
ta parole est amour, qu'elle pénètre notre vie. Donne-nous ta parole, Seigneur, ta parole de vie,
ta parole de vie,
ta parole est vérité, qu'elle nous montre le chemin. Donne-nous ta parole, Seigneur, ta parole de vie,
ta parole de vie,
ta parole est justice. Qu'elle libère tous les hommes. Donne-nous ta parole, Seigneur, ta parole de vie,
ta parole de vie,
ta parole est vivante. Qu'elle nous donne Jésus-Christ. Donne-nous ta parole, Seigneur, ta parole de vie,
ta parole de vie.
Oh, oh,
oh, oh. Oh Seigneur,
oh, oh. Ta parole de vie,
ta parole de vie,
donne-nous ta parole, Seigneur, ta parole de vie,
ta parole de vie,
donne-nous ta parole, Seigneur, ta parole de vie.